Et jusqu'à 9h, l'invité de France Inter est sociologue, Université de Bordeaux, EHESS, spécialiste de l'éducation. François Dubé, bonjour.
Bonjour.
La réforme du bac est à la une de la presse. Je vous cite les titres. Bac et lycée, le Big Bang pour La Croix. Macron lance son Big Bang de l'éducation. Ça, ce sont les échos. Bac, un totem est tombé. L'humanité, Blanquer joue du trompe-l'œil pour casser le bac. L'opinion, Blanquer décroche son bac Paul. Blanquer s'impose comme l'atout réformateur de Macron. Ça, c'est le Figaro. On termine avec le Parisien. Blanquer, le ministre qui secoue le mammouth. Une telle uniformité est rare, François Dubé. Elle est assez incroyable aussi. Elle dit quoi, d'après vous ?
Mais je crois qu'elle dit deux choses. D'abord, il me semble que les citoyens, les Français, ont le sentiment que ce système ne marche plus, donc plus personne ne peut défendre le système tel qu'il est. Je veux dire, c'est quand même une force incroyable. Il y a encore quelques années, on discutait des enquêtes PISA, est-ce qu'elles sont bonnes vraiment, est-ce que c'est pas un complot de l'étranger, voilà. Bon, maintenant, je crois qu'il est acquis que ce système est bloqué, et l'affaire APB,
admission post-bac,
qui fait que certains ont fini par défendre le tirage au sort comme la figure de la justice sociale, bon, tout ça montre que il bénéficie d'un sentiment d'épuisement du système.
À bout de souffle, l'école telle qu'elle fonctionne.
On a en tout cas, ce sentiment s'est imposé, ce qu'il est d'ailleurs, comme toujours, excessif, mais enfin, il s'est imposé. La seconde chose qui me semble expliquer ça, c'est que Jean-Michel Blanquer a joué d'une sensibilité conservatrice extrêmement forte. Il a cassé une réforme que je soutenais, qui était la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Il a mis en l'air les rythmes scolaires, ce qui est un très beau cadeau fait quand même à une partie des enseignants. Il en a appelé aux mannes de Jules Ferry, il a critiqué les pédagogues qui sont à l'origine de tous nos maux. Donc, il a quand même flatté une opinion publique
qui est
assez conservatrice, mais qui a toujours été très conservatrice sur l'école. La France est un pays, vous le savez, qui vit avec l'idée que l'école de Jules Ferry a incarné une sorte de perfection vers laquelle il faudrait tendre indéfiniment. Ce qui fait que quand vous déplaciez une heure d'enseignement d'histoire, la nation ne s'en remettrait pas, etc. Donc je crois qu'il a bénéficié de ça. Et en même temps, il suffit de lire les livres de Jean-Michel Blanquer pour voir qu'il s'est toujours présenté comme un réformateur radical. Donc il me semble bénéficier de cette situation. Je ne parierai pas la totalité de ma fortune sur le fait qu'il n'y aura pas demain des dizaines de milliers de lycéens qui descendent dans la rue, et on sait qu'aucun gouvernement ne supporte ce genre d'affaires, mais quand même, il faut constater que François Fillon s'était heurté à une menace de grève du bac parce qu'il voulait renforcer le contrôle continu sans changer de bac.
Ça, c'est fait.
Que Darcos a laissé sa réforme dans les tiroirs, que Jospin a essayé d'en parler, il a pas insisté. Que pour les TPE, les travaux pédagogiques encadrés, Allègre a mis le lycée à feu et à sang. Et là, ça passe. Alors, maintenant,
mais comment
quelle est la nature de cette réforme ? C'est une
alors,
question
ça,
qu'on
ça,
peut
ça
se poser.
On va y venir,
mais en tout cas, il y a ce sentiment que le système était à bout de souffle, et comme le bac, c'est pas seulement un monument national, c'est une clé de voûte. C'est-à-dire que si vous changez le bac, vous changez le lycée, et vous changez le mode d'accès au supérieur. Donc c'est quand même un verrou très
crucial.
Absolument crucial. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire qu'il se passe quelque chose d'inédit dans l'éducation nationale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réformes qui font pivoter le système? Je ne sais pas s'il faut employer le mot de révolution, mais en tout cas, l'éducation est en train d'être changée très profondément, non, François Dubé?
Alors d'abord, on a le sentiment que ce ministre a une capacité d'action qu'aucun de ses prédécesseurs n'ont eu depuis 30 ans. Ce qui est quand même, je veux dire, y compris une majorité qui lui fiche la paix, ce qui n'était pas le cas de ses prédécesseurs de droite ou de gauche. Et il est évident que ça, tout ce qu'il a dit jusque-là, le retour aux fondamentaux, tout ça n'est en rien une révolution. Bon, et peut-être même pas une contre-révolution, parce que c'est très loin des pratiques. En revanche, le bac est un changement considérable, parce que ça introduit quelque chose de nouveau qui va être l'individualisation du diplôme. C'est ça qui est le cœur de l'affaire, au fond. Jusque-là, vous aviez des élèves qui étaient mis dans des tubes. Ces tubes étaient hiérarchisés avec leurs valeurs. Et en fonction de ces tubes, vous entriez dans l'enseignement supérieur sélectif ou vous entriez plus ou moins bien dans l'enseignement supérieur de masse.
Ça, c'est fini.
Ça risque d'être fini pour avoir un système dans lequel chaque candidat aura sa propre singularité et sa propre valeur. Donc c'est une réforme libérale. Alors je sais que nous vivons dans un pays où le mot libéral est une insulte, mais
j'aimerais
rappeler que dans un grand nombre de pays, c'est plutôt un compliment. C'est-à-dire vous individualisez les parcours et vous singularisez les parcours.
Mais à vous entendre, ça semble plutôt bien, enfin, je vais le dire très simplement.
Je trouve que le principe n'est pas contestable. Les pays qui font ça ont plutôt plus d'égalité sociale que la France. Donc il faut rappeler quand même que nous sommes derrière des pays qui, en termes sociaux, sont plus inégalitaires que nous. Je veux dire, le Canada est plus inégalitaire, l'Angleterre est plus inégalitaire, et on a une école qui est plutôt plus inégalitaire. Donc on est quand même dans une situation un peu compliqué pour parler comme ça. Et donc, ce système maintenant, soit il va individualiser les inégalités et les accroître, ce qui est un risque, mais c'est le risque de toutes les réformes, les pratiques libérales, soit on a la capacité de créer des politiques, on va dire, structurelles, qui font que ce risque sera neutralisé. Alors je pense à des choses très 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 simples.
Par exemple,
je pense que la question des inégalités de recrutement entre les établissements reste cruciale. Tant que vous aurez des établissements qui sont socialement et scolairement très homogènes et de plus en plus scolairement et socialement très homogènes, soit en haut, soit en bas, il est évident que aucune réforme ne changera ce système. Tant que vous aurez un certain nombre d'élèves qui sortent de l'enseignement secondaire et qui ne trouveront pas dans l'enseignement supérieur les formations qui leur offriront un minimum d'utilité sociale, c'est-à-dire des formations courtes à finalité plus ou moins ciblée, professionnelle, etc., il est bien évident que vous ne changez pas grand-chose. Donc on ne fait pas l'économie des réformes de structure. Et puis il y a des problèmes techniques dans cette réforme. Le contrôle continu en est une.
Bon, pourquoi ?
Parce que, d'abord, il faut rappeler que l'objectivité de l'épreuve anonyme n'est pas garantie. Bon. Mais si vous notez les élèves localement, vous créez une norme locale. Et comme la norme locale ne sera pas la même au lycée Henri IV et dans un lycée du nord de la banlieue nord de Paris, vous risquez d'avoir des diversités telles que seule la réputation du lycée fasse la différence. Donc il faudra trouver des systèmes qui permettent d'harmoniser le contrôle continu. Autrement, c'est le règne de la réputation. Et c'est encore pire que le système que nous avons. Donc il y a quand même un certain nombre de risques très sérieux. Et puis, je trouve que les réactions des diverses disciplines ne sont pas que des réactions corporatistes. On peut s'interroger, on peut se sentir légitimement menacé de voir que telle ou telle discipline va devenir secondaire, annexe, disparaître.
Vous pensez à quoi, là, exactement ?
Moi, je vais me manifester un petit chauvinisme personnel. Je veux dire, je pense que les sciences économiques et sociales sont aussi utiles à la formation du citoyen que le mythe de la caverne.
Que la philosophie, donc.
Non, mais je suis pour la philosophie, évidemment.
Bien sûr. Non, mais on peut faire les deux, c'est ça ce que vous dites.
Voilà, mais tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire ça. Donc il y aura là-dessus quand même des tensions assez fortes. Mais force est de constater que le ministre a passé la première étape, ce qui est quand même plutôt une surprise.
Mais vous dites chapeau l'artiste ou pas, François Dubé ?
Mais je dis chapeau l'artiste parce qu'il a fait l'exploit. Je trouve que les gages donnés aux conservateurs depuis des mois me font pas franchement plaisir et je trouve qu'il y a une certaine indifférence au thème des inégalités scolaires qui fait plus que me choquer.
Est-il, d'après vous, ou cette réforme est-elle, d'après vous, de gauche ou de droite, pour peu que ces catégories aient encore un sens ?
Je dirais que...
Le ministre dit pragmatisme.
Non mais le ministre a une rhétorique très très particulière. Il consiste à dire « je suis subjectivement conservateur ». politiquement réformiste, mais ma politique n'est pas idéologique parce que c'est la science qui me guide. Donc, les neurosciences, les comparaisons internationales, évidemment qu'on utilise, mais c'est la règle du jeu, qu'on utilise au gré des circonstances. Plutôt Singapour, plutôt la Finlande, ça dépend des cas. Bon. Donc, de ce point de vue-là, il est un personnage assez compliqué parce qu'il avance sur trois registres. Il s'adresse au Figaro Magazine, incontestablement, de manière
suivie.
Bien, en même temps, il dit c'est la science. Moi, je ne suis plus un idéologue. Je suis plus dans ce registre-là. Et en même temps, je crois qu'il y a une vraie volonté de réforme. La preuve, ce qu'il vient de faire. Donc, de ce point de vue-là, il est très macronien. Il est dans cette espèce de balancement qui est assez réussi. Le choix est un choix politique. Enfin, je ne vais pas faire le vieux prof, mais...
Allez-y, quand même.
Quand même, je veux dire, la politique, ce n'est pas une affaire de science. Je veux dire, on justifie, on prépare des décisions politiques par la science, mais la décision, elle n'est pas scientifique. On choisit pour des raisons que l'autre aurait appelé de valeurs, de principes, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est une politique libérale. Il nous appartient à nous, les Français, les citoyens, les enseignants, etc., de savoir si on veut que cette politique libérale soit plutôt réductrice d'inégalités, ce qui est le cas d'un certain nombre de pays, je le signale, soit on laisse jouer le jeu, et d'ailleurs déjà beaucoup disent que ça n'est pas assez sélectif, que ça n'est pas assez, que le niveau va baisser, et donc ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mais nous avons une responsabilité là-dessus. Pour le moment, on est, de mon point de vue, dans une forme d'incertitude.
Il sera ce soir, Jean-Michel Blanquer, l'invité de l'émission politique de notre amie Léa Salamé. Est-ce qu'il y a un précédent d'un ministre à ce point populaire, n'ayant jamais été connu jusque-là, étant un technicien, un technocrate du Sérail, François Dubé? Jusqu'à présent, les grands ministres de l'éducation étaient de grands politiques.
Écoutez, je n'ai pas le palmarès de la popularité des ministres. Je crois qu'il a une force au-delà de sa popularité, c'est que tout le monde a le sentiment qu'il ne sautera pas dans les 6 mois au moindre incident. Ce qui n'était pas le cas de ses prédécesseurs qui ont donné depuis 30 ans un sentiment de fragilité,
Et même de
fragilité extrême, voire de peur.